problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
On a plusieurs places à notre âge, comme on dit.
C'est dommage, c'est une belle occasion de rater, mais on va essayer de s'en procurer d'autres cet après-midi.
On a des hommes de caractère, donc on va tout faire pour relever le tir.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit, comme tous les soirs. Nous sommes en direct, bien sûr, sur RMC à la radio, sur RMC Sport News à la télé, dans l'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Avec Pierre Ducrot, comme tous les dimanches. Salut Pierre.
Bonsoir messieurs.
Et avec Daniel Riolo, comme tous les dimanches aussi. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Trois matchs de Ligue 1 aujourd'hui.
C'est un peu notre Michel Drucker.
Pardon ?
C'est l'homme du dimanche.
Ah oui. C'est avec lui, c'est Champs-Élysées.
J'ai eu peur, je croyais que c'était le col roulé qui était. Non, il met pas de col roulé.
Non. Non, Jean-Michel Larquet était
dimanche
plutôt
à la télé, toi t'es dimanche dans l'After.
Ouais, c'est vrai.
Un point commun.
Je rappelle les résultats de Ligue 1. Lille bat Lyon 1-0 à l'instant. Rennes bat Montpellier 5-0. Saint-Etienne Bordeaux à partout. On va en reparler de ces matchs, bien sûr, dans l'After. Le 32-16 est ouvert. Le hashtag RMC Live également sur Twitter. Direct studio sur nos applis RMC et RMC Sport. Et puis on ira également en Italie avant la fin de l'After. Simone Rovera a pas mal de choses à raconter. Peut-être la suspension pure et simple de la Serie A. Hein. Il nous en dira plus tout à l'heure à cause du coronavirus.
Par les trois points. Juste en train de réfléchir si jamais je fais l'After le dimanche soir aussi longtemps que Drucker et le. Vous me virez.
Ça veut dire que t'es bon, t'es fidèle. Ça veut dire que les gens te veulent.
Je suis pas sûr.
Et après, tu finiras sur scène à faire un one man show.
Ah oui.
Oh la vache.
Il n'a pas volé son succès.
Ce sera le croc du show.
Mais le val.
L'essentiel, c'est les trois points en Ligue 1 et dans l'After. C'est parti. Quels sont les points de débat de Daniel et Pierre?
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Daniel, tes trois points.
J'ai aimé ce match et notamment la première période. C'est là où Lille a construit sa victoire qui, à mon sens, est largement méritée. C'est mon point 1. En réponse à la première période du LOSC et même à la deuxième d'ailleurs, Lyon n'a jamais répondu. Lyon a proposé un néant footballistique, une tactique incompréhensible, mais j'ai envie de dire, c'est normal, quoi. C'est l'habitude de Rudy Garcia, quoi, de rien proposer. Il y a eu une embellie récente, un peu due, toujours la même chose avec Garcia à l'état d'esprit, mais tactiquement, il n'y a rien. Et le troisième point, bah, c'est le festival du génie breton. Il m'a rempli mon après-midi. C'était
un bon match.
C'était agréable. J'ai bien aimé ce match et Festival du génie breton.
Je rappelle pour ceux qui ont raté les épisodes d'avant que pour toi, le génie breton, c'est Guy Stéphane. Les trois points de Pierre.
Julien Stéphane.
Parce que Guy, c'est le druide, c'est le père du génie.
Lui, il n'aspire pas. Il n'aspire pas au génie, alors que Julien Stéphane, oui, et que ça lui réussit et qu'il faut donc le féliciter d'être un bon génie.
Comment on appelle le père d'un génie?
Génie senior.
Génie, bon d'accord. On t'écoute.
Alors moi, j'ai pas préparé les trois points, mais je vais aller dans le premier, dans le même sens que Daniel, c'est-à-dire la bonne entame de match lilloise pendant une bonne grosse demi-heure qui fait la différence. Ouais, la première période, mais il leur manque un petit quart d'heure quand même à la fin, mais c'est voilà, ça suffit. La deuxième, j'irai pas sur le terrain de Rudy Garcia parce que justement on a beaucoup hésité nous. On a beaucoup parlé du plan et des intentions lyonnaises en première période. Comme toi, on s'est dit ils attendent un peu trop bas, ils ont pas envie de faire la même chose que. Et en fait, Touza. Ouais, non, mais Touza. Non, parce que ça, c'est un 5 derrière, c'est toujours pareil. Tes hommes de couloir, ils peuvent jouer aussi beaucoup plus haut. Et
quoi qu'il en soit, c'est une défense centrale à 3.
Peu importe. En fait, Touza à la pause, on va développer après. Mais Touza, tu vois, je me fais déjà siffler. Touza à la pause dit qu'ils ont pas suivi justement les consignes du coach qui leur demandait d'aller beaucoup plus haut, presser beaucoup plus haut et foutre le bordel dans la défense lilloise.
C'est-à-dire que le coach parle mal alors.
Non. Quand un joueur avoue ne pas avoir écouté, c'est qu'il a compris les consignes, mais qu'en plus ils ont pas fait, ils les ont
on
pas
est dans
appliqué.
Les trois points conclus.
Et les trois points Rennes forcément, parce que c'est le match du jour, et puis c'est surtout ce qui permet à Rennes et Lille d'être bah quasiment maintenant dans un duel quoi pour la troisième place, et plus dans un, comment on dit quand il y en a trois, un triel là, sur scène.
Très bien. Jérôme Thomas et ses équipes.
C'est le triolisme.
Ils sont quatre. Hein, les équipes de Jérôme Thomas. Pas avec Jérôme. Mais c'est maintenant on dit les équipes quand il y a trois personnes.
Oui, ah oui, différence, on parle pas de ça là.
Ben non, mais moi je vous parlais d'un autre truc. Et eux, ils ont trouvé le père du génie. Ben, c'est le géniteur.
Très bon. Si c'est bon, c'est bon.
Alors, les gars, on va démarrer quand même par l'équipe qui gagne ce soir, par Lille. Paul est avec nous au 32-16. Salut Paul.
Salut l'équipe.
Bonsoir Paul.
Paul, est-ce que tu penses que ce soir tu as fait un pas important vers au moins le podium des quatre, comme dirait l'entraîneur célèbre?
Eh ben écoute, j'avais appelé après le match contre Toulouse en disant voilà, après ce match-là, il y en avait un qui était vraiment très important et qu'il fallait impérativement qu'on gagne. C'était le match contre Lyon. Donc voilà, on l'a gagné. On l'a gagné en plus avec la manière. Donc je pense qu'on a fait un très très grand pas sur la troisième place, en tout cas sur le podium.
Pour la lutte avec Rennes, puisqu'il y a un point d'écart. Il va y avoir
Il y a 8 points d'écart avec le cinquième désormais.
Il va y avoir un match qui va opposer les deux équipes, qui sera une sorte de finale. Et voilà, et c'est là que la vérité.
C'est à Rennes ou à Lille? Non, ils se sont joués, me dit Jérôme.
Il n'y a plus de match. Entre Marseille, Rennes et Lille, il n'y en a plus un.
Non, Rennes a perdu à Jérôme. Rennes va jouer Marseille.
Oui, voilà.
Rennes va jouer Marseille, t'es sûr? Oui, oui, exact. T'as raison.
Rennes va jouer Lyon et Lyon va jouer Marseille aussi.
Voilà. Rennes doit aller.
Donc, en fait, nous, nos gros matchs sont passés.
Et il y a aussi un Rennes-Lyon.
Il y a un Rennes-Lyon. Voilà. Donc, effectivement.
Ouais, donc le calendrier est à l'avantage de Lille, quand même, globalement.
Oui. Bon, il y a un point. De toute façon, un point, c'est rien. Ça va jouer entre ces deux équipes-là. Mais une question, Paul. Avant la rencontre, alors le supporter traditionnellement n'est pas toujours méga confiant, c'est un peu d'anxiété. Mais honnêtement, est-ce que tu avais un doute sur le fait que Lille allait battre Lyon? Je ne sais pas pourquoi, moi en tout cas j'avais le pressentiment que sur ce match-là, la façon qu'a Lille d'aborder les matchs et les gros matchs à domicile, c'est-à-dire en mettant une bonne pression, la qualité de joueurs qu'il y a dans cette équipe, je ne mise pas, je joue pas beaucoup moi au Paris Sportif, mais si j'avais dû miser, très franchement, je misais sur Lille de façon assez tranquille parce que Lyon, certes, m'avait montré un bon état d'esprit contre la Juve et le match contre Saint-Etienne, ça compte pas beaucoup, même si pour les supporters ça compte énormément, mais enfin la qualité de Saint-Etienne actuellement fait que pour moi ça voulait pas dire grand-chose. Ce que j'ai vu ensuite contre le PSG, ce que finalement on voit de Lyon, fait que si l'équipe est bousculée, pressée, et Lille a parfaitement les qualités pour faire ça, moi, j'avais aucun doute que Lille gagnerait le match ce soir. C'était clair pour moi.
Effectivement, en plus, à domicile, on est vraiment très bon, avec un public qui pousse énormément. On sait très bien que, en plus, on sait que Lyon n'aime pas être bousculé, et on sait que Lille, au contraire, adore exercer un énorme pressing.
Je vais même te dire, physiquement, les Lyonnais étaient plus capables de.
En plus, il y avait la répétition des matchs à Lyon, pas à Lille. Et franchement, je ne sais pas quel est votre sentiment, mais avec un petit peu plus d'adresse technique dans les derniers gestes, je pense que ce soir, ça fait un 3-0 tout propre.
Oui.
Parce que sur la deuxième période, tu n'as pas de tir cadré sur la première. Mais en niveau de situation, de ce qu'on appelle les expected goals, mais Lille a mis une tarte à Lyon ce soir. Certes, Rémy s'est parfois embrouillé, comme quand il a la volée à faire avec la balle au-dessus.
Deux fois.
Voilà. Bon,
Osimhen, quand loupe une à la fin.
Voilà, mais au niveau des opportunités, des situations, de l'envie de jouer, de l'ambition, du pressing, de tout ce qu'il faut pour gagner un match.
Mais à contrario, Lyon, je crois.
Mais Lyon a marché sur la gueule de Lyon ce soir. Lille a marché sur la tronche de Lyon.
Et Lyon a cadré une frappe à la 14e. Après, la prochaine frappe cadrée a été à la
84e. Lyon, c'est un néant de jeu. Les prends à la gorge, à part te planter. Non, mais
là ils n'étaient pas capables aujourd'hui.
Ou un coup franc ou un corner, ils ne sont capables de rien faire.
D'ailleurs, pour en revenir aux consignes de Garcia qui n'ont pas été appliquées, je pense que là où il s'est trompé, c'est de penser que ces joueurs étaient encore capables de le faire sur un troisième match comme ça, voire quatrième match, et d'aller chercher des Lillois très haut. Et je pense
Garcia
qu'ils n'ont pas été capables de le faire.
Jamais,
physiquement.
Jamais.
Vous pensez que c'est, tu penses que c'est juste physique, les problèmes lyonnais ce soir?
Non, pas, c'est pas juste physique, mais ça participe aussi.
C'est pas que
physiquement, on a vu qu'ils étaient moins bien, à l'image de Guimaraes, quoi.
Non, mais Guimaraes, il est moins bon parce qu'en face, il a un vrai milieu de terrain, parce que Renato Sanchez.
Non, mais c'est un tout, c'est un tout.
Parce que Renato Sanchez, Benjamin André, et en plus, la tactique basique, mais efficace, d'avoir les deux mecs, que ce soit Osimhen et Rémy, qui à tour de rôle se repliaient pour le prendre, lui, le 6.
Oui.
Bon, ben, c'est normal.
C'est un tout, Daniel, sauf que tu peux pas dire.
Numéro 6 de la Terre,
tu peux pas dire que contre le PSG ou contre la Juve, il n'y a pas eu des bons milieux en face d'eux aussi. Et pourtant, ils ont fait autre chose. Tu vois ce que je veux dire?
Ils ont mis plus en état d'esprit, ils étaient.
Ouais, voilà, état d'esprit et intensité, il y en avait plus. Et là aujourd'hui, je pense qu'ils sont pas capables physiquement d'en mettre de l'intensité.
Ils ont fait jeu égal une partie du match, mais après, ils ont oui, explosé.
Oui, ils ont explosé parce que physiquement, ils n'étaient pas capables de le faire pendant une heure et demie, mais ce qui est normal. Hein. C'est normal d'ailleurs.
C'est un concours c'est parce que la Juve n'a pas absolument besoin.
Ce que tu veux dire, c'est qu'il faut, d'autres armes pour exister au cours du match. Ça, je te rejoins, effectivement. Et ce soir, ils n'avaient même pas celle-là.
Ils font un match de rêve contre la Juve, mais une mi-temps. Après, ils s'explosent. Si la Juve, ils doivent vraiment les prendre à la gorge et gagner le match. Franchement, je sais pas si.
Non, ils ont beaucoup de réussite, surtout
et puis,
en deuxième période.
Ça arrive à faire des conneries tactiques aussi. Mais ils ont explosé aussi.
Paul, un truc à rajouter sur le LOSC?
Oui, juste une petite chose. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'était le pressing qui était constant de la première à la dernière minute. C'est-à-dire que contre Nantes, à un moment, quand ils sentent que le match peut basculer, ils se laissent gagner par la fébrilité, ils reculent et ils concèdent des occasions. Là aujourd'hui, on a vu qu'à un moment Lyon a pu sortir un peu la tête de l'eau et même à ce moment-là, ils ont continué à presser, ils ont continué à être très haut, ils ont continué à être très agressifs et j'ai aimé l'état d'esprit vraiment de la première à la dernière minute du match. Ouais. C'est-à-dire que c'est une équipe très jeune, certes, elle peut se laisser gagner par fébrilité, mais aujourd'hui, elle a vraiment tout donné du début à la fin et j'ai beaucoup aimé.
Moi, j'ai trouvé le match de Lille excellent, même si techniquement, il y a beaucoup de déchets, notamment en deuxième période. Ouais. On peut dire plein de choses, trouver beaucoup de défauts. Mais dans l'ambition, l'intention, ce que tactiquement Galtier veut mettre en place, le milieu à deux, même si ce soir c'était plus un 4-3-3, mais bon, ça se transformait beaucoup.
Ouais,
quand même.
C'est vrai.
Oui,
ouais.
Il démarre avec Osimhen un peu à gauche, Rémy dans l'axe, il connaît à droite, et Bamba un peu plus dans le milieu avec les deux autres.
Ouais, après, dans l'animation, c'est souvent, ouais, voilà.
Et ben, ils ont mangé Lyon dans tous les secteurs. Ouais, ouais.
Non, la seule chose que tu peux reprocher au.
Le seul truc qu'il sait faire, qu'il peut encore faire, c'est d'être grand. Ça, on va pas jamais lui enlever.
Qui ça
Marcelo, le défenseur. Ouais. Non, mais il se fait manger sans arrêt par Osimhen.
Ah, mais parce qu'il est grand, mais il a pas la puissance.
Aussi,
il a pas la puissance et la course qu'Osimhen a. Ah,
ouais. Mais au moins, dans le duel de la tête, existe. Il s'est fait manger tout le long. Marcelo, il en touche plus une.
La seule chose pour rester sur Lille, la seule chose qu'on peut reprocher aux Lillois, c'est de pas avoir cette capacité à tuer le match plus tôt.
Ça, c'est vrai.
Parce que ça aurait pu leur coûter très cher à la fin. Qui sait qu'il y a une occasion qui frappe, c'est Traoré, je crois.
Moi, Guimaraes, t'en as eu une belle aussi, qui est passée juste à côté.
L'espèce de petite.
Oui, qui dévisse, mais qui passe pas loin, effectivement. Et ça, faut qu'ils apprennent à le faire parce que ça peut leur coûter cher.
Ils vont se faire braquer sur la fin. Tu sais, le fameux truc de t'as raté trop d'occasions, tu vas te faire punir, tu vas te faire braquer. J'ai cru au braquage, mais bon, logiquement.
Paul, merci en tout cas.
Merci à vous les mecs.
À tout à l'heure.
Ciao Paul.
Alors, on se fera une petite évaluation. On reparlera d'Osimhen. On parlera de Benjamin André, dont beaucoup parlent ce soir sur le.
Il connaît.
Sur le hashtag RMC.
Il connaît sur la première période.
Il connaît aussi.
Il avait déjà.
Bien sûr.
Il a toujours ce problème. Il connaît de la durée entre les matchs et à l'intérieur d'un match. Mais
la première demi-heure, il a du jus et il fait la différence.
Bon, quand il est bon, quel joueur ça peut être? Ouais. Mais le football, c'est 90 minutes, c'est d'être bon chaque semaine. C'est ce qui le sépare encore du très haut niveau. Mais sur une demi-heure, il peut être de très haut niveau. Il est vachement explosif. Hein. Il est bon. Hein.
Alex, au 32-16, est avec nous. Alex est supporter lyonnais. Salut Alex.
Salut l'after.
Salut Alex.
Oui. Bon, évidemment, on avait vu une semaine de rêve pour Lyon, là, avec 3 victoires. Et là, tout à coup, tout se renverse, quoi, avec la Coupe de France et ce soir.
Ah, oui, bon, la Coupe de France, après, contre Paris, le score. Bon, on ne va pas revenir sur Paris. Moi, je trouve que Lyon avait fait une bonne première heure. Bon, passons, on s'en fout du match. Mais ce soir, bah, ce n'est pas compliqué. On prend les 11 Lyonnais. L'équipe a l'habitude de mettre des notes. Je leur mets quoi, 0,5, 1 au 11. Lopez, il commence à me fatiguer avec ses relances minables. Dembélé, il est incapable de garder un ballon de haut but. C'est catastrophique. Rudy Garcia, pareil, il met quoi, 0,5. Parce qu'au bout d'un quart d'heure, quand on voit que ça fonctionne pas. Non, on attend toujours qu'il y ait un but, on attend toujours qu'il se passe quelque chose, et à la mi-temps, on le change même pas. Rudy Garcia, au bout d'un quart d'heure, il doit dire bon.
Voilà, il y a quand même un mystère, ce que disait Pierre rapidement tout à l'heure, c'est ces fameux, ce qu'a dit Touzard à la mi-temps. Faut quand même l'écouter, Touzard.
Mais Touzard, y a pas de mystère.
Touzard, il dit, le coach a demandé de faire un truc qu'on n'est pas capable de faire ce soir, en gros. Voilà, ils n'arrivaient pas.
T'es pas capable parce qu'il y a un adversaire.
Très bien. N'empêche que ça.
Il y a un adversaire qui te presse. Il y a un adversaire qui joue mieux que toi.
Non, mais déjà dans les intentions de ce que voulait faire Garcia, intentions. C'est pas ce qu'on a vu.
Et ça veut dire que le message passe pas. Mais c'est pas la première fois que le message passe pas à Lyon.
Moi, j'ai senti un gros creux physique quand même.
Mais non, attends.
Tu sentais le rythme du match.
Le mec, Lyon doit absolument gagner. La course au podium, franchement, elle est loin. T'as un président qui, au sortir du match contre la Juve, on a l'impression qu'il avait gagné la Coupe du Monde. Le discours était méga positif. On est fort, on va finir en trombe, on est machin. Donc, il a reboosté tout le monde. Tout le monde est en confiance. Tu prends une tarte en jouant plutôt pas mal pendant une heure contre le PSG. Mais mine de rien, il faut quand même se poser la question pourquoi tu sombres à ce point. C'est pas uniquement le carton
rouge. Après avoir bien joué,
Oui, mais tu sombres à chaque fois dans toutes tes deuxièmes minutes.
Mais après avoir fait une bonne heure.
Oui, mais tu sombres quand même. C'est 90 minutes, le football. Et là, t'arrives à Lille. Tu dois absolument gagner. Tu joues avec trois défenseurs dans l'axe et des mecs pas méga rapides, pas à l'aise dans les relances. T'en as qu'un sur trois qui sait correctement relancer un ballon. Ok. Tu ressors ton truc avec les deux soi-disant couloirs parce que t'as l'impression que t'as découvert l'Amérique avec ça. Et corner arrière-gauche, c'est la découverte du siècle. On est content, machin. Bon, et après dans le jeu, c'est quoi après ?
Mais attendez.
Une fois, c'est quoi la solution ? Alors, une fois que ton Guimaraes, qui est ta trouvaille, il est pris par l'attaquant, le neuf, qui fait Daniel, juste son taf de revenir en marquage sur toi. Quelles sont les solutions que tu trouves ? Qu'est-ce que tu fais dans le jeu ?
Rien
de
plus.
Quelle est ton ambition ? Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu te fais marcher ? Ils se sont fait marcher dessus. À la première minute, il n'y a pas eu de réaction. Il n'y a rien eu. Bah pardon, si c'est pas un échec.
Non, mais ce que je peux te répondre là-dessus, la différence.
Mais le creux physique, j'ai pas signé qu'il y a 25 joueurs au niveau. Il y a 250
millions. Tu ne peux pas tout mettre sur la tronche de Garcia. Tu ne peux pas tout mettre sur la tronche de Garcia.
Mais je mets une chose. Je mets pas que sur la tronche de Garcia.
Bah là, si, ce que tu disais, c'était ça.
Non, non.
Pierre. Alors attends. Juste Pierre, réponds et ensuite Alex, ce sera à toi.
Pierre, ce que je peux noter sur la différence, parce que en face de Lyon, contre le Paris Saint-Germain ou contre la Juve, même si c'était une petite Juve, t'as quand même du monde. Et effectivement, les Lyonnais font pas les mêmes matchs, même si ça dure qu'une période contre la Juve et une heure contre Paris, ce qui est pas suffisant, je suis d'accord avec toi, pour aller au bout d'un match de haut niveau, c'est quand même différent de ce soir. Et ce soir, Lille a beau faire un bon match, c'est Lille, c'est pas non plus du niveau Ligue des Champions. Et ce qui fait la différence pour moi ce soir entre un Lyon qui, avec de l'intensité et l'état d'esprit, arrive à sauver les meubles ou à faire paraître que contre Paris la Juve, et ben ce soir, sans énergie physique et donc sans état d'esprit, parce que quand t'es pas bien physiquement, tu peux pas avoir l'état d'esprit, t'es en retard surtout, t'es pas bien. Alors, et ben alors, t'as plus grand chose.
Alors, je te pose une question, parce que le contexte des matchs où soi-disant
Alex voulait intervenir en avant
les Lyonnais, il est particulier. Contre la Juve, c'est un match aller de Coupe d'Europe. Mm-hmm. Tu n'as pas un adversaire qui ce soir-là est très à l'aise, mais tu n'as pas un adversaire qui démarre en te rentrant dedans. Il attend une mi-temps pour le faire. C'est toi qui plutôt lui rentre dedans.
Non, mais le contexte était favorable, même contre le PSG.
Le PSG, c'est un match de coupe.
Ouais.
C'est pas un match, tu vois, les deux doivent gagner, mais t'as un temps où le PSG ne rentre pas dedans.
Non, mais je peux te rejoindre sur des contextes favorables pour Lyon.
Là,
au moins, ils avaient l'énergie pour le faire.
Lyon doit gagner, mais ce qui ressemble à une équipe type.
Mais ils ont plus la force de faire ce qu'ils veulent faire.
Te rentre dans la gueule et tu ne fais rien.
Non, parce que je pense honnêtement qu'ils n'ont plus l'énergie, ils n'ont plus le jus pour le faire. Tout
donc
simplement.
Ça, c'est une excuse ?
Non, c'est pas une excuse, c'est une explication. Moi, je cherche pas à excuser Lille, Lyon ou Bordeaux.
Alex,
j'essaye d'expliquer pourquoi Lyon n'a pas réussi au moins pendant une période à faire la même chose que contre Paris, par exemple.
Alors, à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on ouvre un peu les yeux. Ça va me faire mal de dire ça. Je pense que Lyon est à sa place. Je pense qu'on a des joueurs, 80% de notre effectif, normalement, ne doivent pas être à Lyon. Moi, il y a un mec que j'ai envie de parler, on va peut-être un peu sortir du match, mais j'en peux plus de Florian Maurice, parce que Andersen, Toko Ekambi, enfin, toute la clique qui nous ramène, j'en peux plus. Ce sont des joueurs, pour moi, qui sont très moyens. Ils ne doivent pas être à l'Olympique Lyonnais. On est 7e, 8e, 9e, j'en sais rien. On est à notre place, en fait. On n'a pas des bons joueurs. Je le dis, Dembélé, oui, il marque des buts. Il est incapable de faire un contrôle et de remiser. Andersen, il va à 2 à l'heure. Marcello, il va à 2 à l'heure. au milieu de terrain, tout ça.
Ça, c'est pas faute d'avoir dit que le recrutement lyonnais depuis 10 ans, c'est une catastrophe.
Non, t'as eu des bons coups aussi de fait quand même, à Lyon. Tu peux pas écarter qu'il y a eu des bons coups.
Donc sur 10 ans, t'as 3 bons coups et ça suffit à sauver le bilan.
3 bons coups, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai.
Cite-les-moi, à part Mendy et Ndombele, cite-moi des bons
coups. Déjà, c'est pas mal. Déjà, c'est pas mal.
Ça fait 2 ans, 10 ans.
3 avec Guimarães.
Il y en a plus que ça.
C'est Juninho qui vient d'arriver.
Faudrait s'y pencher, mais
c'est pas Florent Maurice qui a pris Guimarães.
Faudrait s'y pencher, messieurs. Mais sur 10 ans, on peut pas dire que Lyon a recruté que 2 joueurs.
Mille fois, c'est pas possible.
Je m'y suis penché. Tu veux que je te cite les pipes?
T'en as aucun qui a changé l'histoire du club. L'histoire du club sur les 10 dernières années, tu l'as sauvé avec les mecs de chez toi. Fekir, la
oui, t'as eu aussi des bons joueurs chez toi, bien sûr.
Ça n'est que ça qui a maintenu le club.
D'autres choses, tu sais quoi, faudrait que je m'y proche aussi, mais t'as eu d'autres quand même, t'en as pas eu que 10 ans quand même.
Alex nous a promis une liste de pipes de Florent Maurice. Alors vas-y.
Non, mais alors, Ribus, l'arrière, le grand arrière gauche russe.
Je l'ai, la liste, moi. Vas-y.
Anderson, je suis désolé pour l'instant.
Oui, Anderson, on te rejoint, oui, ça c'est sûr.
Marcello, il est minable. Je suis désolé, Traoré.
Le défenseur central argentin là qui est parti en Russie après là, comment il s'appelait celui-là?
X2 en vente, donc ça allait.
Traoré quand on l'achète à l'Ajax, c'est le moins bon joueur de l'Ajax.
Traoré, c'est un échec. Tété, c'est pareil. Raphaël, c'est très moyen. Marçal, c'est très moyen.
J'en oublie, je vous promets.
Après, t'as les
Diakité, Diakité. Faut voir ce que ces mecs-là coûtent. Ça coûte pas grand-chose.
Diop,
on n'en parle même pas.
Mais arrêtez.
Mais depuis 10 ans, mais je le dis tout le temps.
Je comprends pas que Florian Maurice...
C'est pas 5K ou 3K qui vont sauver l'affaire. Et encore, Mendy et Dombélé, qu'on cite en contre-exemple, sont des joueurs qui n'ont pas réellement changer l'histoire de l'OL. Ce sont des mecs qui ont été des bonnes affaires.
Oui, mais déjà, ça te fait le prix,
tu les as achetés et la revente.
Mais après,
qu'est-ce qu'ils t'ont apporté finalement?
Si ça te fait l'affaire en Ligue 1 et qu'en plus tu te fais un peu d'argent, faut pas en demander trop non plus.
Alors, si Lyon c'est ça, Pierre, alors pardon, j'avais pas compris. J'avais pas compris.
Quand tu sors de l'OL,
que tu prends 10 pour revendre 20, ok, pardon.
Quand tu sors de la décennie de domination lyonnaise, l'OL est devenu ça après, oui, parce que c'était d'autres objectifs. On sait très bien.
Tu sais bien mettre les idées au clair. Raté ça.
C'était plus le Lyon.
C'était pas une équipe qui devait jouer le titre, pas gagner une coupe Ok, pardon.
Le titre, ils peuvent le jouer. On sait.
Alex, j'ai tout raté. Oui. Pardon.
Merci en tout cas.
Lyon,
et bonne soirée à toi. À très vite. Dans quelques instants, l'évaluation, les gars. Mais d'abord, Vianney. Et là, il est supporter lyonnais lui aussi. Bonsoir, Vianney.
Bonsoir.
T'es d'accord avec ce que t'as entendu jusque là?
Pardon,
tu es d'accord, toi, le Lyonnais, avec ce que tu as entendu jusque-là dans l'after ce soir?
Ouais, je voulais dire que j'étais particulièrement d'accord pour le coup avec Daniel, parce que c'est vrai que techniquement, moi j'ai regardé le match, j'étais au travail, donc j'ai pas pu faire le déplacement, mais j'ai regardé le match, ça donne envie de hurler en fait, parce que les gars ils sont incapables de faire un 1-2, ils sont incapables de faire une transversale, c'est affligeant en fait de voir ça. Parce qu'on se dit des joueurs qui sont censés travailler en fait, c'est des acquis de base et les gars ils les ont pas et on voit que le ballon dès qu'ils l'ont dans les pieds 2 secondes plus tard ils se le font prendre. Après pour le coup les Lillois, je dois dire qu'ils ont été clairement supérieurs quoi. C'est vrai que j'avais limite envie à un moment de changer de vie et de devenir supporter Lillois parce que côté lyonnais,
t'as vu ce qu'ils mettent dans le match, en volonté, en débauche d'énergie. Est-ce qu'on peut parler 2 secondes de Renato Sanchez? Ce joueur qui a été taillé par la terre entière, j'ai même dû moi probablement à un moment le tailler et tout ça.
Oui, parce que j'allais dire à un moment donné tu pouvais aussi. Il a eu du mal. Hein.
Exactement. C'est un jeune joueur qui a eu un parcours. Je sais pas comment le qualifier, compliqué, fait de choix, tu sais, du mec qu'on dit perle mondiale et qu'on envoie immédiatement dans les grands clubs, mais il est pas prêt. Lui a probablement également pris la grosse tête à un moment, cru qu'il était plus fort qu'il ne l'était. Mm-hmm. Bref, sa progression n'a pas été faite normalement, mais elle a été faite de façon chaotique. Mais au final, quand tu le vois jouer ce soir, et depuis quelque temps maintenant à Lille, on est peut-être quand même en présence d'un vrai bon joueur de foot, hein, quand même.
Ah oui.
Et au milieu de terrain, la paire avec André, ça fait partie dans les milieux de terrain en Ligue 1.
C'est très complémentaire.
Dans les milieux de terrain en Ligue 1, si on n'est pas dans le top 2.
C'est pour ça qu'un garçon comme Soumaré, qui serait titulaire dans beaucoup d'équipes de Ligue 1, voire toutes, mis à part une ou deux, n'arrive pas à récupérer
encore,
sa place d'ailleurs.
Moi, grand fan du milieu de terrain parisien, je suis vraiment top 2, vraiment quoi, le milieu de terrain lillois. Ils ont des mecs, Renato Sanchez, je pense, qui. s'il continue, s'il perd pas la tête à être baldingué de droite à gauche et tout, il a tout pour devenir un très très bon milieu de terrain.
Alors,
et
on va y revenir sur le milieu de terrain lillois.
Mais... pour dire qu'il a mangé, ils ont mangé les Lyonnais ce soir.
Ah oui, Vianney et Lyonnais. Justement sur la gestion de l'effectif, est-ce que tu penses que Garcia s'est planté dans sa compo, parce qu'on en a pas encore parlé de ça, Vianney, ton avis?
Bah, moi, clairement, c'est ce que je disais au Standard tout à l'heure, c'est que Toko Ekambi et Dembélé, déjà, tous les deux devant, ça fonctionne pas. Les deux s'entendent absolument pas.
Bah, ils jouent pas ensemble.
Ils ont pas réussi à se trouver, ils ont pas réussi à faire des trucs ensemble. Ils sont à l'image, après, de toute l'équipe sur la qualité technique, hein, comme je disais avant. C'est-à-dire que les contrôles, on a l'impression qu'ils ont même pas encore appris à les faire. En fait, on a l'impression que dans l'esprit de Garcia, c'était un petit peu mettre deux finisseurs devant, comme ça on espère marquer deux fois plus, mais on s'aperçoit en fait qu'on marque deux fois moins avec eux. Et ils ne tentent pas, en fait, surtout. Les deux ne tentent pas, du coup, ça donne le score qu'on a là et qui aurait dû être bien pire, je pense d'ailleurs. Hein, je pense que Lille pouvait largement mettre un 3-0 hein, là-dessus.
Vianney, merci beaucoup.
Merci. Bonne soirée.
Le temps qu'on a, en fait, c'est de voir des équipes comme l'OL qui gagnent une fois et demie, plus belles qu'elles ne le sont, et de les voir plus catastrophiques qu'elles ne le sont quand elles perdent un match aussi. J'ai pas réagi, mais dire que des joueurs là ne savent plus contrôler un ballon, excusez-moi, mais enfin c'est quand même, on est quand même un peu loin de la vérité aussi.
Il y a quand même un problème de compatibilité.
Il y a du déchet, je suis d'accord.
Ils se ressemblent quand même les deux là, Toko Ekambi et Dembélé.
C'est pas méga complètement.
Non, c'est quand même pas les mêmes profils. Toko Ekambi, c'est quand même plus un bouffeur d'espace et c'est quand même plus, c'est plus un percuteur que peut l'être Dembélé, qui est plus point d'appui, même s'il peut prendre aussi un peu l'espace. Moi, je pense pas que ce soit le problème. Honnêtement, si t'avais un fond de jeu un peu plus fluide et ces garçons recevraient le ballon dans d'autres dispositions, honnêtement, que ce soit l'un ou l'autre, parce que c'est deux, je trouve que c'est deux bons joueurs. À mon avis, ça donnerait autre chose.
Deux bons joueurs pour quel niveau? Pour faire
ne serait-ce que pour un niveau Ligue 1 avec Lyon, comme ça, je suis persuadé que Dembélé peut continuer à marquer des buts et à être un bon avant-centre. Et je suis persuadé que Toko Ekambi peut.
Explique-moi, qu'est-ce qui fait que pendant des années, Lyon est capable d'aligner en numéro 9 des joueurs comme ceux des années 2000 et on va même déborder jusqu'à, par
la exemple, Gazette.
Lisandro Lopez, qui était une recrue, la dernière, très bonne pour moi. Enchaîné avec en neuf derrière lui, on a eu Lacazette qui était informé au club. Et te retrouver aujourd'hui, alors que le club n'a pas perdu en standing, n'a pas perdu en argent, pas perdu en moyens, et se retrouve aujourd'hui avec Dembélé en numéro 9.
Je suis pas sûr que.
Pourquoi t'as baissé de niveau?
Je suis pas
Qu'est-ce
sûr
qui
que.
Justifie que t'es baissé comme ça.
Je suis pas sûr que les finances de l'OL aujourd'hui permettent de faire les mêmes choses que les finances de l'OL leur permettaient il y a 10, 12, 15 ans. Je pense pas que l'OL est la même place. Honnêtement, le foot a évolué.
Je pense que surtout le club travaille beaucoup moins bien.
Je sais pas. Il y a peut-être un petit peu des deux, je sais pas. Mais je suis pas sûr que l'OL puisse taper dans les profils comme il pouvait taper avant.
Quel est le meilleur joueur? Victor Osimhen ou Moussa Dembélé?
Osimhen, je pense.
Okay, pourquoi il est profil, il est pas à Lyon?
C'était pas compliqué d'aller chercher en Belgique, Osimhen. Hein
non, mais peut-être. Tu peux en trouver.
Pose la question.
Tu peux en trouver.
Ah bah d'ailleurs, Osimhen. Je voulais dire un mot sur Osimhen.
Les meilleurs numéro 9 que Dembélé en Ligue 1. Je vais te l'accorder.
Mais il est pas mauvais. Il est pas mauvais quand même.
Il y en a pas une tonne. Notre niveau en Ligue 1 est faiblard. Mais bon, je me dis. C'est quand même étonnant que Osimhen soit là-bas.
Est-ce que si tu mets un Dembélé à Lille aujourd'hui avec le jeu lillois porté vers l'avant, avec un Bamba, un Ikoné qui lui porte des ballons aussi, Dembélé ne donnerait pas encore autre chose que ce qu'il donnait à l'OL, tu vois?
Pourtant, et je sais que je ne suis pas méga fan de cet attaquant, mais néanmoins, Mbaye Niang, meilleur ou moins que Dembélé?
Oh, je suis pas sûr qu'il soit meilleur que Dembélé, par contre. Après, ils sont pas au même moment de leur carrière, ils sont pas. C'est pas les mêmes profils. Comment tu veux comparer
on parle de numéro 9 ou pas?
Oui, mais comment tu
Après,
veux comparer?
De monter ton
Après,
équipe,
c'est un choix. Voilà, c'est un choix. C'est un choix par rapport à un profil. Mais je suis incapable de dire Dembélé est meilleur que Benedetto. C'est pas du tout les mêmes profils.
Qu'est-ce qu'a envie à Dembélé? Excuse-moi. Explique-moi. Qu'est-ce que Ajorque a envié à Moussa Dembélé?
On parle de profils complètement différents, c'est compliqué.
Je parle de numéro 9, moi.
À ce moment-là, tu peux pas les dissocier du système de jeu dans lequel ces joueurs s'inscrivent aussi.
Diallo de Metz, là, qui est déjà à 10 buts.
Ouais, ouais.
Ah, bon, moi, je vous laisse faire parce que vous avez vu que j'ai.
Je veux dire un mot d'Osimhen dans l'évaluation parce que moi, il m'impressionne de match en match.
Je pourrais continuer sur d'autres postes.
Non, mais là, c'est à mon tour de parler d'Osimhen. Et vous avez vu cette George Weah qu'il a fait sur le côté, là, quand il a remonté tout le monde, on aurait dit Mr. George. Je perds pas le ballon, je transperce, pam, pam, je passe. Voilà, non mais franchement, lui, c'est... Ah, et puis, c'est une nouvelle fois, comportement exemplaire. Le mec ne râle jamais, il encourage tout le monde.
Et que Dubois qui a réussi à l'énerver.
Chapeau l'artiste. Ouais, Dubois, ouais, il l'a cherché, sans doute. Voilà pour ce match Lyon-Lille. Il faut absolument qu'on parle de Rennes, évidemment, hein, dans quelques instants, qui a mis une danse à Montpellier et qui, ce soir, donc, s'installe à la troisième place. On va en parler dans quelques instants. Et puis, on dira un mot des Marseillais, parce qu'il y a certains Marseillais qui nous écrivent et qui commencent à dire « Attends, on a un problème, là. Nous, on va à Montpellier. Pas facile. Derrière, on reçoit Paris et on est à 6 points. » Tu vois ? Donc, il y a les Marseillais qui se posent un peu des questions. On en dira un mot dans quelques instants. On se retrouve tout de suite.
C'est jusqu'à minuit.
L'After Foot. Gilbert Bribois.
Avec Pierre Ducrot et Daniel Riello, comme tous les dimanches. Dans quelques minutes, on ira en Italie. Simone Rovera sera avec nous pour nous parler de l'évolution des prises de décision sur le coronavirus. On a également des infos à vous donner sur ce qui va se passer en France dans les jours qui viennent. Mais là, tout de suite, il faut qu'on parle de Rennes. Parce que Rennes, peut-être que c'est la bonne cette fois pour aller en Ligue des Champions. Oui, la tête de Fauvergue est bien loin. Là, maintenant, maintenant il y a Unou qui met les doublés. Il y a Del Castillo et tout. Enfin, ils ont éclaté Montpellier. Cet après-midi. Donc, les Rennais sont plus que jamais présents.
Montpellier qui est toujours en difficulté à l'extérieur aussi. On oublie à chaque match que Montpellier aborde à l'extérieur, mais c'est 13 matchs sans victoire à l'extérieur sur 14.
La doublette Savanier-Delors a pas
fait grand-chose. C'est marrant d'avoir quasiment deux équipes comme ça, enfin deux visages. Quoi. C'est 13 matchs sans victoire sur 14
à l'extérieur. Ils reçoivent l'OM au prochain match.
À l'automne, Rennes avait une période où les scénars de match ne tournaient vraiment pas pour eux. Et c'est là la période dont ont beaucoup parlé de façon différente les temps et Stéphane à l'époque, où la confiance a été gardée à Stéphane parce qu'on sentait bien que c'était mieux que ce que les résultats donnaient. Aujourd'hui, c'est bien et les résultats sont peut-être meilleurs que ce que ça donne réellement. Il faudrait trouver une sorte de juste milieu. Parce que dans la raclée d'aujourd'hui...
Bon, sur le match d'aujourd'hui, tu peux pas trop...
Non, sur la raclée d'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais il y a, ne serait-ce que dans le début de match, bon, tu vois la tête de Gaëtan Laborde, le retourné d'Andy Delors, ça, je dis pas que ça change quoi que ce soit, parce que la dynamique, on sent bien que...
Non, ils ont de la réussite sur ces deux coups-là, ouais.
Que dit Montpellier, vraiment à l'extérieur, ils ont beaucoup de mal, et Rennes dégage pas mal de confiance. Et ça, c'est déjà important pour une équipe d'être en confiance, comme ça, les mecs osent faire des choses, tu sens que l'entraîneur gère bien son effectif parce que il fait tourner, tu vois, Mbagnon que je veux pas aujourd'hui, donc c'est Unou qui jouait.
Rafinha jouait pas non plus.
Voilà, Del Castillo. Del Castillo qui joue. Il arrive à faire tourner les mecs, donc ça garde une certaine fraîcheur. Bon après, tu vois, ça, je pense qu'il peut la tenter 150 fois, sa frappe qui ouvre le score.
Ouais, pied droit comme ça, elle est belle.
Le pied droit comme ça, t'as l'impression que le ballon, il a pris juste la petite motte qu'il fallait pour qu'elle arrive
sur
son intérieur. Et que bim, elle aille bien dans la lucarne.
C'est ce qui t'arrive quand tu tout un match, t'as les mêmes intentions le temps aller vers l'avant et tenter des choses. Au bout d'un moment, il y en a qui marchent.
Et cette équipe, comme elle est là, tu dis que c'est la bonne, Gilbert. Je sais pas, parce que je pense que Lille est supérieure. Maintenant, on va voir. Il y a qu'un point d'écart.
Peut-être que c'est la bonne.
Il y a un point d'écart entre les deux équipes.
Ouais, peu importe. Les deux vont tout jouer à fond.
Je pense que Rennes va jouer à fond. Voilà.
Ouais, voilà.
Rennes n'a plus rien à jouer. Ils vont le jouer à fond. Je pense qu'il y a un vrai état d'esprit pour aller toucher ce rêve et tenter l'exploit jusqu'au bout. Parce que Rennes en Ligue des Champions sera quand même une sacrée performance, une limite un exploit.
Ouais.
Donc ils vont tout tenter pour le faire.
Ce que j'ai aimé moi cet après-midi et qui marche très très souvent, c'est le dispositif, le 4-3-3. Alors peu importe les joueurs, parce que t'as quasiment notamment les trois de devant. Tu doubles les postes et tu peux tourner comme tu veux, mais t'as beaucoup plus de relations entre les joueurs quand tu joues comme ça que quand tu joues en 4-4-2 où les deux milieux excentrés sont très loin de leur milieu, sont très loin de leurs attaquants.
Donc toi tu dis le 4-3-3 c'est le système gagnant pour
le 4-3-3, moi à chaque fois que je l'ai vu il est beaucoup plus agréable à regarder et beaucoup plus efficace, j'ai l'impression, pour Rennes.
Grosso après il y a peut-être des équipes contre qui tactiquement que tu sais que tu vas beaucoup miser sur l'état d'esprit.
Ouais, t'as des profils comme ça. T'as les vrais joueurs de côté pour ça. T'as les milieux de terrain qui peuvent.
Et comme malgré tout son génie, Stéphane est pas non plus le plus grand des tacticiens, même s'il est génial. si le petit Lyon fait 3.
Non mais il a quand même.
Elle est bonne cette phrase quand même.
Non et puis il a aussi un. Il a aussi.
C'est pas le plus grand des taxis.
Il a aussi
même
un banc. C'est-à-dire que là par exemple Unou qui jouait plus trop au PAM, il met un doublé. Niang.
Oui, mais quand
il,
tu joues,
il a fait des choix quand même aujourd'hui.
Ce que je te dis, il fait tourner. Voilà. Non mais il fait des choix parce qu'il fait tourner.
Comme on dit maintenant dans le milieu du football, il a fait des choix forts.
Non, il a pas fait des choix
c'est
forts.
C'est pas des choix forts.
Il fait des.
C'est des choix pas forts.
Il fait des gestions de temps de jeu.
C'est des choix. C'est des choix logiques quoi. Qui s'impose honnêtement.
Parce que t'as des mecs qui ont joué jeudi, ils gèrent les temps de jeu, il a un effectif.
Ouais, et puis tu reviens aussi
les
à
mecs,
une.
T'as pas de gars qui sont largement meilleurs que d'autres, tu vois.
Il y avait que le match de Reims pour Rennes qui était loupé.
C'est quand même un choix. Je veux dire, Niang, c'est son meilleur attaquant.
Ouais, mais aussi. Tu sais quoi, quand tu connais Ounou et sa qualité.
Il va courir plus que Niang sur le
terrain. Ouais, quand tu connais la qualité d'Ounou, honnêtement, c'est pas fou de penser que le garçon peut faire beaucoup plus de matchs qu'il n'en fait déjà cette saison.
Bien sûr.
Benjamin est là, supporter rennais au 32-16. Salut Benjamin.
Salut Gilbert, salut Daniel et salut à l'agent de Flavien Tay.
Exactement. Pierre de son prénom.
Pierre de son prénom.
Ouais. Auteur de un but, une passe décisive.
Ouais, et puis d'un bon match. Un bon match.
Dommage parce que. Dommage, Flavien Tay aurait pu jouer avec Edouard G.
Alors, je ne l'ai pas. J'étais.
Et avec beaucoup de JK.
J'étais. Ah oui, c'est des lettres. Ce sont des lettres.
C'est ça.
Putain, je suis vraiment nul au quiz, hein, tu vois.
Bon, bref, c'est pas grave. Bon, Benjamin, tu t'es régalé.
Oui, bah forcément, comme vous avez dit précédemment, quand ça tourne en ta faveur, c'est beau. Et surtout qu'on était une équipe plutôt qui gagnait des matchs avec un but d'écart dans le temps additionnel. Donc là, voilà, tout s'est bien goupillé. Tu sentais que le match continuait, on pouvait continuer à marquer. Donc une bonne après-midi.
Ouais. Oui, Montpellier a lâché au bout d'un moment.
Sur le point tactique,
c'est
là.
C'est 5-0 de Rennes.
Moi je peux te le donner, on avait mis un 5-0 à Dijon en début de saison, mais c'était il y a 5 ans, je crois, de mémoire.
Mm-hmm. Bravo.
C'est le 4-3-3, là, Pierre dit, Rennes doit jouer un 4-3-3 comme aujourd'hui, tout le temps, t'es d'accord?
Je suis assez d'accord, parce que tu vois, le 4-4-2 avec seulement Nzonzi et Kamavinga au milieu,
eh oui.
Il manque un joueur. Et je trouve que le profil de Léa Siliki, ou alors le profil de Martin, ou alors le profil de Grenier.
Ah bah Martin, lui, on a oublié qu'il était là, le pauvre.
Bah même Grenier, on a oublié qu'il était là.
Bah, il est blessé, les deux.
Ah, mais ils sont là quand même, ouais, c'est vrai.
Après, sur la ligne offensive, c'est vrai qu'il y a débat. Et l'équipe est assez différente de l'année dernière. Parce que si l'année dernière, il y avait vraiment un 11 de départ à Rennes, il n'y avait qu'un 11 qui permettait de faire des coups sur des matchs très sympas. Mais là, on a plutôt une rotation d'effectifs. Et c'est vrai que devant, que ce soit Rafinha ou Del Castillo, Tay ou Inou ou Niang, ou voilà, j'en oublie, il y a la possibilité de faire tourner, de. Et justement de reposer les joueurs qu'on joue jeudi, donc c'est...
Ouais, et puis de mettre une concurrence, un c'est bien. Plus haut. Moi j'aime bien Kamavinga en 8.
Ouais, bah, il a beaucoup plus d'impact que quand il joue à 2, il arrive
pour ça. C'est pour ça que je dis ça.
Et Nzonzi qui se consacre que aux tâches de numéro 6. Alors vous avez été très critique jeudi, moi j'étais à Saint-Etienne, vous avez été très critique jeudi avec Nzonzi sur sa prestation. Je pense qu'il va quand même apporter beaucoup s'il est uniquement sur un poste de 6.
De sentinelle avec deux milieux qui travaillent devant lui.
De ralentir. Mais c'est sûr qu'offensivement, ils ont dit, c'est pas ce qu'on attend de lui. Hein. Mmh. Mais surtout de calmer, avoir le plein de jeunes.
Oui, et puis c'est un joueur qui, avec son expérience et son intelligence, va pouvoir combler tous les espaces laissés par deux milieux devant lui, qui seront du coup tranquilles pour effectivement être plus percutants, être 10 mètres, 15 mètres plus haut et apporter un soutien à cette ligne de trois devant. Pour moi, aujourd'hui, ce que tu dois retenir, peu importe les hommes, c'est le système qui est beaucoup plus adéquat au profil que tu possèdes à Rennes.
Je suis d'accord, je retiendrai le 4-3-3 pour le dernier match de la saison. Après, ça va être intéressant. Ce soir, c'est marrant parce qu'il y a vraiment deux typologies de supporters rennais. Il y avait qui souhaitait la victoire de Lille parce qu'ils veulent assurer l'Europe. Et ce serait déjà très bien de retourner en Europa League. Et il y a les plus jeunes, dont je pense que je fais partie encore, qui voulaient la victoire lyonnaise en se disant « on veut la troisième place ». Mais ce soir, de savoir qu'on c'est quasi sûr qu'on va être au moins en Coupe d'Europe l'année prochaine, à 10 journées de la fin, c'est quand même une très bonne nouvelle quand tu supportes à Rennes, hein, clairement.
Ah bah évidemment.
Ouais, ouais.
Alors après, mathématiquement, rien n'est totalement fait.
Bon, non, mais tu peux te bagarrer l'esprit assez tranquille. Ouais.
Ouais. Donc maintenant, faut regarder les calendriers. On va faire les petits calculs. Le Réunion dans 15 jours, il y aura pas mal d'absents côté Rennais. Mais d'ici là, on va déjà aller à Bordeaux. À voir comment on va gérer aussi les matchs à huis clos parce qu'on parle là-dessus.
Bon, bah à Bordeaux, j'ai pas besoin de jouer à huis clos. C'est à huis clos de toute façon, il y a personne.
Oh, t'es méchant, ils ont un bon public.
Ces derniers temps, le bon public de Bordeaux, il a plus envie de venir au stade, apparemment.
Bordeaux.
Donc, à voir si Paris nous laisse gagner chez eux encore cette année en 37e journée.
En 37e journée, oui, globalement, ça peut.
Pour doubler Marseille, on prend.
Alors ben justement, tiens, un mot sur l'OM, les gars. J'ai des Marseillais qui lui disent « Ouh là là, Montpellier-Paris, on peut se retrouver avec 0 points en 2 matchs et il n'y a que 6 points d'écart entre Rennes et Marseille aujourd'hui. » Alors bon, est-ce qu'ils jouent à se faire peur
envisager que Marseille aille perdre à Montpellier et ensuite contre le PSG. C'est pas complètement fou.
C'est pour ça
en fait que le match.
Il faut que derrière ça suive.
Non mais déjà toi t'as pas pris de points au match.
Ça m'étonnerait que les deux équipes derrière toi en perdent 6 aussi quoi. Ah.
C'est pour ça que ce match nul contre Amiens il est
gênant.
Piteux. Il est piteux parce que tu as le match en main et parce que il faut pas laisser filer des points quand tu les as
qui sont évidents
comme
Amiens,
ça et que tu mènes parce que.
On va pas refaire l'after de ce match. J'y étais moi. Ce match. Ils ont été brillants Damien Perrinel et Jonathan Macardy sur ce match-là.
Parce que derrière ça te coûte cher parce que ton calendrier te propose deux matchs que oui. Effectivement, ouais. Tu peux perdre.
Oui, Benjamin, vas-y.
Je voulais juste dire un dernier mot, si vous le permettez, justement avoir vos trois avis là-dessus. C'est sur les latéraux rennais Traoré et Mawasa. Alors, on ne les découvre pas ce soir, mais pour moi, c'est vraiment le profil. Alors, le terme latéraux moderne est vraiment galvaudé, mais vraiment, ces joueurs, moi, m'impressionnent beaucoup. Mawasa, il est sur une montée en compétences depuis Nîmes et puis cette année à Rennes. Et Amari Traoré, il confirme. Et vraiment, moi, c'est des joueurs que je pense qu'on aura du mal à garder, même du long terme, malheureusement, parce que ils sont vraiment une vraie plus-value, je trouve.
C'est possible. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vu les hommes de couloir que tu as devant toi, qui souvent sont des hommes de couloir qui rentrent à l'intérieur, si t'as pas ce genre de latéraux qui sont capables de monter très souvent et très haut, comme ils sont capables de le faire, parce qu'ils ont un vrai volume de jeu, et ben ton système est un peu bancal. Et là, effectivement, ils sont capables de le faire. Alors, ils sont capables de finir eux-mêmes. Ils sont capables de centrer. Je trouve que Traoré a très bon centre. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Alors, je sais pas si tu arriveras à retenir les deux ou peut-être qu'un sur les deux.
En ce moment, c'est vrai qu'il est bien, mais le nombre de matchs où je lui ai vu, la saison elle est longue, hein, mais la première. Enfin,
oui, mais parce que collectivement,
il baisse la tête. T'as l'impression qu'il va se tamponner contre un mur d'un coup. C'est un bon gars.
Ce 4-4-2 et je fais pas une fixette dessus, mais ce 4-4-2, t'avais un couloir devant lui qui était bouché. Il savait pas trop comment faire. Il y avait un problème d'articulation qui posait problème à beaucoup de profils. Parce c'est pour ça que je.
C'est pour ça qu'il a la tête baissée. L'impression qu'il allait se cogner.
Ouais, mais c'est parce que tactiquement, ils arrivaient pas à trouver la solution pour combiner tous ensemble. Et c'est pour ça que je reviens sur ce 4-3-3 qui offre naturellement des solutions pour tout le monde finalement. Le milieu de terrain comme l'a expliqué Benjamin, les trois devant, mais il le sait, la preuve, il l'a mis aujourd'hui. Et puis les hommes de couloir aussi finalement.
Il n'écoute pas, mais.
Benjamin, merci beaucoup.
Merci messieurs, bonne soirée.
Salut, bonne soirée. Voilà. Et puis c'est vrai que les supporters rennais se plaignent. Ils estiment qu'on parle pas assez de Rennes dans l'after.
Ah, c'est pas vrai pourtant.
Là, cet après-midi, alors ils m'ont dit ouais, vous allez en parler encore comme d'habitude à 23h55.
Non, il est
23h40. Bah ouais, je sais pas, ils sont.
Ah, on parle toujours du premier match, forcément la première demi-heure.
Ouais, mais c'est normal.
Chouine pas mal. Voilà. T'as pas du Lyonnais qui chiale parce qu'on a dit qu'Osimhen était meilleur que Dembélé?
Ah non, là j'ai plutôt du Lyonnais énervé après Garcia et les joueurs là.
Ah non, je cherche pas, je vais même leur rajouter que les avant-centres de Monaco sont meilleurs que Dembélé.
Il y en a un qui me dit Charbonnier est meilleur que Dembélé, l'avant-centre de Brest.
Charbonnier, on va pas aller jusque là.
Mais évidemment, la surenchère toujours.
Il y en a beaucoup plus qu'on le pense. Et donc je demande pourquoi Lyon a un 9.
Et puis Seb te dit Pierre, oui Pierre, le 4-3-3 c'est bien vu l'effectif, mais il est très rarement utilisé. Quand Bourigeau entrait en plus de Cavani et Nzonzi, il le mettait sur un côté en 4-4-2.
Voilà. Je suis d'accord. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour le joueur lui-même, Bourigeau, parce que ce n'est pas son poste de jouer comme ça côté gauche. Et ce qui n'est pas une bonne chose, je pense, pour le collectif.
Dans quelques instants, Saint-Etienne, Bordeaux, plus le coronavirus en France, en Italie.
On va passer Saint-Etienne, Bordeaux.
Plein d'infos à vous donner dans quelques instants dans l'after. On se retrouve tout de suite.
L'after foot, Gilbert Bribois.
Pierre Ducrot est là, Daniel Riolo également. Le coronavirus au programme, il faut en parler puisqu'il va y avoir des décisions qui vont être prises demain en France et puis on va parler d'Italie aussi. Un mot tout de même avant de Saint-Etienne-Bordeaux. Les gars, les Verts donc, qui restaient sur leur semaine fantastique de qualification en finale de la Coupe, un partout. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match ?
Daniel, je t'en prie, vas-y.
Que Saint-Etienne méritait mieux, ça, c'est certain. Je pense qu'ils doivent gagner le match. Ils sont menés contre le cours du jeu par un Bordeaux d'une pauvreté absolue. Et qu'après, déjà, ils avaient les occasions avant. Après, il a fallu qu'il court après le score, certainement flippant un peu, parce que c'est pas une équipe qui est en pleine confiance, même si jeudi soir, ils se sont tapés un bon kiff.
Ouais, mais bon.
Ils ont réussi à égaliser assez vite. D'ailleurs, le but était,
heureusement,
était,
d'ailleurs,
était
je
pas
pense.
Mal du tout.
Heureusement qu'ils égalisent très vite, moi, je pense.
Il y a des profils de joueurs, moi, comme ça, qui me sidèrent. Boudbouze, pendant 7 mois, il n'existe pas, le mec. Et là, il va mettre le but en étant le joker jeudi soir. Là, maintenant, il joue. Et quand il joue, tu as envie de le regarder. Tu dis, bon, techniquement, on a toujours su que tu savais jouer au ballon, tu es bon et tout. Mais pourquoi tu ne joues pas plus souvent, en fait? Enfin, il y a quoi? C'est quoi le problème? Là, aujourd'hui, il a joué. À un moment, quand il veut jouer, niveau des, on la connaît, sa technique.
Ouais,
au
ouais,
niveau
ouais.
des passes, des transversales, des orientations de jeu.
Oui, il peut
ça,
tout faire.
Ça devient brillant d'un coup.
Il peut tout faire.
Mais
c'est pas que ça le foot.
Mais pourquoi jamais?
Parce que c'est pas que ça le foot.
Pourquoi 80% du temps non et 20% oui?
Parce que dès que t'arrives, et malgré
là,
tout, je sais que vous allez me dire que c'est que de la Ligue 1, mais quand t'arrives au haut niveau comme ça, à un moment donné, tu peux pas jouer juste avec ta technique. Il faut aussi que la tronche elle suive et que t'as envie, que t'as envie d'être
mental. Mais t'as envie de lui dire, mais pourquoi tu t'impliques pas plus? Pourquoi ta carrière, c'est avec la technique que t'as.
Bon, ceci dit, moi, j'ai pas trouvé ça énormissime de la part des Verts cet après-midi. Le match.
Ils sont au-dessus de Bordeaux. Ils sont au-dessus. Ils doivent.
Oui, le match. Oui, mais le match lui-même est honnêtement très poussif.
On n'a pas vu un grand match.
Et je pense que notre vision est un peu tronquée par justement cette qualif là qui vient un peu là en se disant Saint-Étienne va revivre.
C'est un match très moyen.
Ouais, voilà.
Dans ce match moyen, Saint-Étienne mérite de gagner 1000 fois. Et Bordeaux, c'était d'une pauvreté.
Mais tu récoltes peut-être que tu sèmes depuis plusieurs mois maintenant. Et les matchs où tu vas être un peu mieux maintenant, tu vas pas réussir à les gagner. Et il y a une raison
c'est
à ça.
C'est possible, mais
y a une
raison cas, là, ça. Moi, mon analyse du match, c'est que c'est eux qui ont fait le jeu, c'est eux qui méritent, c'est eux qui ont eu le plus d'ambition. Et que Bordeaux, c'est vraiment flippant. Quoi.
Bon, puis se confirme qu'on reverra plus Ruffier.
Hein. On l'a vu dans les tribunes.
Oui, dans les tribunes, mais.
Ouais, non, ça
pourrait te dire, à un moment, il va le relancer.
Ça va finir comme ça, ouais, effectivement.
Là, je pense que c'est définitivement mort.
Ouais. Bah, je pense qu'il n'y en a aucun des deux qui a envie de faire le pas vers l'autre. Hein.
Ouais, mais le pauvre Ruffier, il va faire quoi?
Bah, il va aller ailleurs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Ah ouais, mais les gardiens, c'est pas si facile. Hein. Enfin, toi, tu connais ça bien.
Oh,
tout,
il trouvera quelque chose quand même, Ruffier.
Ouais.
Il trouvera quelque chose. Mais bon, l'histoire semblait écrite jusqu'à la fin entre Saint-Etienne et lui, mais non, tu vois. Il ira connaître un autre club, je pense.
Bon, bah, on verra. Allez, coronavirus. Et bien sûr, on vous attend au 32-16 pour en parler. Avant d'aller en Italie, je vous donne les infos qu'on a ce soir concernant la France. Alors, demain, réunion au ministère des Sports pour étudier un peu les différents événements sportifs qui arrivent dans les jours qui viennent. Alors, il y a du foot, évidemment. Dès demain soir, par exemple, il y a le match de Lens en Ligue 2, Lens-Orléans. Il y a la Ligue des Champions, donc mercredi, le PSG Dortmund. Il y a ensuite la Ligue 1. Il y a France-Irlande de rugby aussi. Normalement,
il y a la Ligue des Champions dès mardi aussi.
Oui, mais pas en France.
Pas en France, ouais.
Là, je te parle de.
Je parle plus en France, là. Voilà. Okay.
Alors, en fait, là, la tendance ce soir, et le ministère des Sports dit on veut que les compétitions se jouent, quitte à ce qu'elles soient à huis clos. Donc, il doit y avoir une pression quand même des ligues, des fédés, pour que tout ne s'arrête pas, quoi. Hein, et que donc, on joue à huis clos, ce qui, évidemment, n'arrange pas beaucoup de présidents de clubs, parce que vous imaginez bien que les recettes stades pour pas mal de clubs sont importantes. La tendance est qu'on joue à huis clos plutôt que d'annuler. Mais on explique que, finalement, il va y avoir des préconisations et que la décision finale, c'est pas la ministre des Sports, qui, en l'occurrence, en l'État, ne sert à rien.
Ouais,
Non, c'est les préfets.
C'est les préfets.
C'est comme à Strasbourg.
Oui, mais avec la pression du ministre, le préfet, il fait. Hein.
Alors, attention, parce qu'il y a toujours les préfets, ils ont quand même une latitude. La préfète du Bas-Rhin, c'est une femme qui a décidé. Elle a décidé de son propre chef, hein, de dire vendredi soir, pas de match demain entre Strasbourg et le PSG. Donc, en ce qui concerne Lens demain, ce sera le préfet du Pas-de-Calais en l'occurrence. En ce qui concerne Paris, alors là, il y a deux préfets, il y a le préfet de Paris et puis le préfet de la région, donc il va y avoir une concertation.
D'accord, les deux.
Bon, enfin, la tendance ce soir, malgré tout, au PSG, c'est Saber Desfarges qui nous dit ça, la tendance c'est qu'on s'attend clairement à huis clos.
Oui, c'est le huis clos.
Voilà, pour Paris. Alors, évidemment, il n'y a rien d'officiel, hein, donc on est bien obligé de mettre le conditionnel. Alors, le Parc des Princes, une autre information, a été désinfecté. Là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce qu'on a fait exactement au Parc des Princes pour désinfecter.
Bah, un peu ce qu'ils font en Chine, etc., avec des produits. Hein. Tu ne les as pas vus dans la rue passer.
Le problème, c'est pas un stade où il n'y a personne. Le problème, c'est les gens qui viennent au stade. Donc, je ne vois pas tout ce que tu désinfectes quand il n'y a personne dans le stade.
C'est pour dire que toutes les précautions sont prises. Quoi.
Ouais.
Je pense que c'est surtout.
Je pense que ça changera
en termes de communication.
Le huis clos paraît quasi fait.
Ah ouais, moi, je ne suis pas d'accord.
Si, c'est fait, c'est fait. Je te le dis, tu verras.
On verra mercredi alors.
Bon, non, tu verras demain.
Daniel non, le sent comme ça.
Non, c'est pas je le sens, c'est tu verras demain, tu veux pas mercredi.
Sérieux ?
Ah ben ça va être dès demain, oui, que ce sera annoncé.
Bon,
c'est quand même la tendance. Hein. Voilà. C'est quand même la tendance. Donc voilà, en fait, tout va se décider demain. Hein. Voilà. Après, on verra demain soir, on en parlera dans l'after. Enfin, il est vrai que si le PSG Dortmund se joue à huis clos, tu te dis quand même, le PSG, ils ont quand même la sacrée choumoune quand même, avec la Ligue des Champions. Il y a quand même un karma qui est terrible. Je veux dire,
en fait, le karma, souvent aussi, tu contribues. Alors là, en l'occurrence, ils ont contribué.
Ouais,
toutes les autres années, tu as aussi.
Il y a toujours un truc, en fait,
Il y a une partie de ça et il y a ce que tu fais pour arriver à ça. Les autres années, c'est plutôt qu'est-ce que tu as fait pour arriver à ça. Souvent, tu t'es mis dans la merde par plein de trucs. Là, en l'occurrence, là, t'as pas fait grand-chose.
Non, là, tu peux vraiment rien. Enfin, si ça se termine comme ça, on est à huis clos.
Bah, si t'as
après, rien ne si, t'interdit à huis clos
si
de gagner quand même.
Si t'as raté ton match aller, qui te fait démarrer, éliminer ton match retour, et que tu vas le jouer dans des conditions particulières. Donc finalement, tu fais toujours quelque chose qui te met dans la merde.
Mais rien n'empêche Paris de gagner, même à huis clos.
Hein. Évidemment.
Oui, donc,
la Juve a battu l'Inter 2-0 ce soir à huis clos.
Voilà, exactement, ils ont qu'à faire le match qu'il faut.
Ah bah justement, Simone Rovira nous rejoint. Simone.
Triste pour les supporters, par contre.
Simone, bonsoir.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Salut Simone.
Simone, tu n'es pas dans la zone d'exclusion, tu n'es pas confiné
Non, Turin n'est pas dans la zone rouge, hein, je crois.
Écoutez, je suis presque dans la zone d'exclusion parce que Turin et Cuneo sont les deux seules provinces du Piémonte qui sont verts, on peut dire, pas rouges. Donc, dans certains côtés, oui, je suis exclu. Je ne peux pas aller à Milan, je ne peux pas aller à Parme.
Mais exclu à l'extérieur de la zone.
Voilà.
Est-ce que tu as le droit de venir en France ?
En théorie, oui. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Si la France ne me dit pas que je ne dois pas venir, je peux venir.
Ah, mais tu dis que tu viens pour l'after, ils te laisseront passer.
Voilà, il y a des raisons majeures, même pour aller dans les zones rouges. Donc, l'after, c'est toujours une raison majeure.
Avant que tu nous parles de ce qui va se passer dans les jours qui viennent, deux histoires. Alors, on peut en rigoler ou pas, mais enfin bon, deux petits trucs qui se sont passés aujourd'hui. Alors déjà, il y a une image assez marrante de Cristiano Ronaldo qui descend du bus de la Juve avant le match tout à l'heure. Et d'habitude, il y a toujours des supporters qui sont là derrière une barrière. Et là, en fait, il fait des air check, Cristiano Ronaldo. Donc, il n'y a pas de supporters, mais lui, il fait quand même, je tape dans les mains, mais il n'y a personne, en fait.
C'est une machine, le mec. C'est une machine.
Il est drôle.
Il est robotisé.
Non, mais c'est assez drôle.
Ouais, ouais.
Et puis alors, il y a l'histoire extraordinaire de Pescara, il faut que tu nous racontes ça, Simone.
Ouais, c'est drôle.
Bah oui, que les joueurs se sont présentés.
Ça, on est en D2, italienne.
Pescara en D2, joué face à Benevento de Filippo Inzaghi, il se présente avec les masques, et au final, l'arbitre dit oui, mais vous pouvez
pas. Les mecs, ils voulaient jouer avec les masques, en fait.
Voilà, ils voulaient jouer avec les masques pour sécurité masque, personnelle et des adversaires.
Quand tu transpires, mais t'as des contacts corps contre corps, enfin, c'est n'importe quoi.
C'est du énorme n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y a même des dispositions de ne pas célébrer les buts.
T'as pas raconté dans les détails. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés sur le terrain avec un masque, le cérémonial en match avec le masque, jusqu'au moment où l'arbitre leur dit bon, maintenant enlevez les masques. Enfin, c'est pas autorisé, quoi. C'est voilà. Sinon, les gars, ils allaient jouer avec le masque.
Ouais, bien sûr. J'étais au Juventus Stadium, mais ça arrivait jusque là. Donc, on en parlait même à la mi-temps. Donc, c'est vrai, c'est incroyable, mais.
Non, mais si t'as peur au point de vouloir jouer avec des masques, à ce moment-là, ne joue pas.
Alors,
joue
ça, pas. C'est un autre discours. Non, attention, parce que les directs.
Assume, président assume pour soi, qui est tout à fait louable. Après tout, chacun fait ce qu'il veut, mais viens pas jouer avec des masques, quoi. Ne joue pas.
Parce que le président de l'association italienne footballeur, Damiano Tommasi, a dit qu'il y a certains joueurs qui quand même sont inquiétés par la situation, que logiquement ils sont des hommes avant que des joueurs de foot et qu'ils ne voulaient pas jouer. Il y a eu cette hypothèse aussi de reporter les matchs d'aujourd'hui, d'annuler la journée. Et surtout, mardi, il y aura un conseil fédéral où la position des joueurs va être prise en considération avec la position de la fédération. Et d'autres parties, comme peut-être les arbitres. Et donc, on prendra vraiment en considération l'idée d'interrompre, au moins jusqu'à nouvelle date, mais on ne sait pas quand, les championnats italiens. Donc, ça, on verra bien.
Non, je pousse ce truc à l'extrême, Simone. La victoire de la Juve ce soir face à l'Inter, ce n'est pas le match du titre, quand même.
D'un certain côté, oui. Après, est-ce que si les championnats sont interrompus après 26 journées, qu'est-ce qui se passe?
Tu fais comment derrière? Tu vas pas finir un championnat au mois de juillet quand l'Euro est fini, hein?
Alors, si les championnats sont interrompus, la fédération italienne et la Ligue peuvent présenter à l'UEFA les classements actuels pour déterminer les positions de clubs qui joueront l'Europe la saison prochaine.
Bah, moi, je trouve ça. C'est quand même, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais les clubs de foot.
Ça ne veut pas dire que la Juve soit titrée champion d'Italie. Les championnats peuvent être interrompus. Les premières quatre équipes allaient en Ligue des Champions. Mais ça, ça ne veut pas dire que la Juve serait.
Les joueurs de foot, ils ont un suivi médical que le commun des mortels n'a pas. Ils ont un médecin avec eux tous les jours quasiment auprès d'eux à l'entraînement.
Les amis pourraient faire tous les matchs à huis clos.
Voilà. Bah, enfin, je sais pas.
Oui, tu finis la saison comme ça. Ouais.
Voilà. C'est malheureux pour le fou, évidemment, les tifosos.
Bah, écoute, ça c'est un peu, sincèrement, c'est un peu mon point de vue. Mais en Italie, la situation est en train de devenir tellement compliquée qu'il y a un mouvement beaucoup très très grand du gens communes, de joueurs probablement, de gens du football qui considèrent que le foot doit s'arrêter. Si la majorité, si les gouvernements, si tout le monde va penser que le football doit s'arrêter, très bien, on va l'arrêter. J'ai des doutes pour ce qui concerne
si
la Ligue des Champions.
Le ministre des Sports en Italie, je crois qu'il a encore moins de pouvoir qu'en France parce qu'il a dit aujourd'hui, j'appelle à suspendre le championnat et puis derrière, les matchs sont tous joués. Hein, donc.
Alors ça, c'est encore plus ridicule parce que le ministre des Sports, pour moi, c'est vraiment, malheureusement, je l'ai dit, mais ça a été un clown ces derniers jours parce que hier, son souci principal, c'était de faire la guerre à Sky et DAZN parce qu'il transmet en clair les événements sportifs parce qu'il fallait faire ça. Hier soir, il y a eu les décrets du Premier ministre. C'est lui qui a créé la zone rouge en toute la Lombardie, en 14 provinces. Et dans ces décrets, il y avait bien écrit que les championnats vont continuer à huis clos. Donc, si le ministre du sport n'a pas eu la force de taper les poings sur les tables et dire non, on va mettre aussi que le sport doit s'arrêter.
Ouais,
et ça, il est fait les samedis soirs. Pourquoi dimanche à midi 25, 5 minutes avant la Coupe d'envoi, il met un coup de pression au foot en disant non, on doit tout arrêter. Encore une fois, c'était après, une chose à mettre dans le décret du ministre qui a tout arrêté en Italie.
Il y a une espèce de volonté de se flageller, de se faire du mal en disant bon, ben, comme le pays souffre, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, parce que ce qui se passe est absolument fou. Je sais comme toi, Simone, même si tu y es, j'ai une nouvelle, évidemment, quand tu as 100 morts par jour, c'est juste un délire.
Non, mais la situation en Italie, dans certains hôpitaux de la Lombardie,
mais après,
est
comme dit
Gilbert, incroyable.
Si dans un stade, tu ne fais venir personne et que tu fais jouer les mecs, s'il faut les faire jouer à huis clos et que les gens devant la télé peuvent au moins regarder, déjà, ça va un peu leur faire penser à autre chose parce que la plupart sont enfermés à la maison quand même. Mais cette volonté de dire, comme la situation est grave, on va pas s'emmerder avec la bagatelle et donc déchausser, espèce de relativisme absolu, ou parce que la chose est grave, donc on fait pas les choses
Simone,
qui sont pas
merci.
Graves, on annule tout.
Je ne
sais pas trop pourquoi, mais il y a un mouvement en Italie à faire ça.
Et puis attends, dernier truc drôle.
C'est un peu bizarre quand même.
Balotelli, lui, il dit faut tout arrêter. Je comprends pas, on arrête. Et puis il y a les mecs qui lui ont dit bah, toi, de toute façon, quand tu joues, t'es nul, donc t'as qu'à arrêter. C'est très drôle. Il s'est fait rabrouer sur les réseaux sociaux. Demain, on sera là à 21h, bien sûr. Et tout de suite, c'est le RMC Poker Show, Daniel.
Absolument. Et ce soir, évidemment, on parle
poker. Fais vite, on est en retard.
Mais on va faire une petite parenthèse. Mais aujourd'hui, vous savez quand même qu'il y a le plus gros gain de paris sportifs de l'histoire en France.
Ah non. Ah oui, au foot.
Qui est tombé. Malade.
Combien?
Non, c'est un combiné de plein de sports. Le mec est avec nous ce soir dans l'émission.
Combien
de foot? Un peu plus de 400 000 euros.
Je croyais qu'il devait se retourner la tête à Munich, le gars, là.
Et il y est. Bon, il y est, on va l'avoir au téléphone.
J'ai dû commencer.
Bon, Munich.
À demain soir,
Mathieu. Les 400 000 se jouaient sur Bayern Augsbourg cet après-midi.
Oh, pression,
il a emmené tous ses potes là-bas pour regarder et tout. Et 2-1, il
2-0.
Est passé. 2-0. C'est ça, pardon.
Il devait être content, effectivement.
À demain dans l'after, 21h.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.
Problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.